merci de m'avoir invité. Je suis toujours, après 17 ans de travail dans un autre pays, membre inscrit au rôle des ministres de l'Église protestante unie de France. Et je suis très heureux de pouvoir aujourd'hui resserrer des liens, avec aussi la joie de rencontrer tant et tant d'anciens stagiaires et étudiants de la faculté de Montpellier en particulier, et de la faculté de Paris aussi occasionnellement. Alors, de quoi s'agit-il ? Je définirais la mission première de l'Église comme la communication de l'Évangile. C'est la formule est en particulier utilisée par Christian Gretlin que vous avez sous les yeux. Lui subdivise cette communication en trois aspects. D'une part, la célébration. Je pense que c'est un aspect important de se rendre compte qu'une célébration parle, communique. La dimension d'enseignement, qui est classiquement celle qui est au premier plan, mais aussi l'aide à vivre, la diaconie et l'accompagnement pastoral, à leur manière, communiquent l'Évangile. Et tout l'enjeu, c'est de penser l'articulation entre ces trois aspects. La diaconie en soi ne communique pas forcément l'Évangile. La célébration peut être parfaitement opaque. L'enjeu, c'est l'articulation. Comme j'aime à le dire, excusez-moi pour la formulation un peu familière, la liturgie sans diaconie, c'est de la léthargie. Et la diaconie sans liturgie, c'est de la diaconerie. L'enjeu, c'est l'articulation entre les différentes formes, en fait, de communication de l'Évangile. Cette façon de comprendre la mission de l'Église a une dimension institutionnelle, non pas parce que nous serions soudainement devenus, si ce n'est catholiques, plutôt romains, mais simplement institution veut dire qu'il y a un certain nombre de paramètres qui échappent aux acteurs et qui déterminent l'activité. Nous ne pourrions pas, par exemple, comme Église protestante en France, renoncer aux Saintes Écritures. Nous renoncerions à nous-mêmes. Les Écritures, en ce qui nous concerne, représente une institution. Il en va évidemment de même de la parole et des sacrements. Ce sont des paramètres qui déterminent l'activité que nous ne pouvons pas changer. Cette mission de la communication de l'Évangile, nous ne pouvons pas l'abandonner. Selon la formule d'un sociologue, nous ne pouvons pas choisir de servir plutôt l'argent plutôt que de servir Dieu. Il y a des choses qui nous sont instituées. Mais à côté, il y a une deuxième mission qui est en rapport avec la première, qui n'a pas la même priorité, mais qui est liée profondément, c'est la dimension communautaire. Il y a tant et tant d'activités que vous menez, qui sont articulées certes à la communication de l'Évangile, mais qui ont aussi une forte dimension communautaire en rapport avec l'amour du prochain, qui conduit à une forme de partage spirituel et matériel, dans la diversité des différents charismes. Il était question du corps du Christ tout à l'heure, donc la métaphore paulinienne. C'est là la pointe particulière de cette métaphore. Cette dimension est en rapport aussi avec le sacerdoce universel, autrement dit, la capacité que tout un chacun a d'être témoin de l'Évangile. Mais chacun sait que le sacerdoce universel réclame une dimension de formation, une dimension d'institution pour pouvoir se déployer. L'enjeu de cette dimension communautaire est néanmoins la rencontre de personne à personne dans leur globalité. La communication de l'Évangile ne se fait pas primairement sur le mode que je suis en train d'utiliser. La communication de l'Évangile se fait primairement de personne à personne dans la rencontre. Déjà, Élie Gounel, à Saint-Étienne, au début du XXe siècle, disait que si on veut convertir, entre guillemets, c'était le mot à l'époque, un ouvrier, ça se fera par la clarté du regard et la franchise de la poignée de main. Il y a une dimension interactive, profondément, dans la dimension de communication. C'est pour ça qu'il faut placer ce deuxième pôle à côté de la communication de l'Évangile, qui est celui de l'interaction, d'être humain à être humain, une dimension interactive, en relation réciproque avec la communication de l'Évangile. Alors la dimension donc de contexte, j'en ai parlé, la sécularisation donc comme marginalisation des églises, mais aussi la difficulté de l'évangélisation. Alors personnellement, j'ai eu l'occasion de travailler ça avec un certain nombre d'entre vous en 2004, ça ne nous rajeunit pas. Alors qu'est-ce qui apparaissait justement dans la question communiquer la parole, l'évangile dans une société laïque? On se rendait compte en fait que une large part d'entre nous vivent une difficulté structurelle à donner un témoignage explicite. C'est pas si simple. Déjà, il y a la divine pudeur. Mais aussi, en fait, on préfère des formes indirectes de témoignage. On montre qu'on est des gens bien et du coup, on témoigne de l'Évangile. Il y a beaucoup d'activités hybrides qui sont à la fois de l'ordre du témoignage et de l'ordre d'autres aspects. Je montrerai que ce n'est pas un problème. Je crois fortement aux activités hybrides. Alors, le témoignage peut se faire de façon plus explicite à deux moments, aux actes pastoraux, ce que vous, à l'ouest des Vosges, vous appelez actes pastoraux, à l'est et dans le reste de l'Europe, ça s'appelle les casuels. Et à Noël, évidemment, là, on a le droit d'aller dans la zone piétonne, par exemple, de Strasbourg, et donner un témoignage. Le problème aussi des formes de témoignage, c'est la distinction qui est assez intéressante entre prosélytisme et évangélisation. C'est bien connu, hein, cette distinction, depuis les années 60, en fait, dans l'Église réformée de France à l'époque. Si vous grattez un peu, vous vous rendez compte que le prosélytisme, c'est ce que font les autres. Vous faites de l'évangélisation, c'est bien connu. Hein? Une autre problématique liée au témoignage de l'Évangile, c'est que vous avez les pires difficultés à distinguer un intérieur et un extérieur. Qui est population cible, d'une certaine manière, de l'Évangile parce qu'il ne serait pas au bénéfice de la grâce de Dieu? Vous aurez du mal à tracer une frontière. Et de plus, apparaissait au moment de ce synode la question de la crédibilité et de l'exemplarité. C'est-à-dire, en fait, beaucoup de personnes, notamment des laïcs, disaient « les pasteurs, c'est des saints, eux, ils peuvent, de façon crédible, en fait, témoigner de l'Évangile. Hein? Moi, c'est plus compliqué. » Comment sortir de ces situations-là? Il faut bien entendu situer ça dans le contexte général du discrédit d'une parole religieuse dans la société, notamment un peu plus dans certains pays que dans d'autres. Il y a trois régions où c'est plus difficile que dans d'autres, c'est la France, mais ce n'est pas le plus difficile. La France n'est pas du tout le pays le plus sécularisé d'Europe. C'est beaucoup plus compliqué encore en République tchèque et dans l'Est de l'Allemagne. Vous n'êtes pas les champions de la sécularisation, désolé de vous décevoir. Il y a une autre problématique, c'est ce qu'on pourrait appeler la prédication intellectuelle. C'est pour ça que je vous ai mis ce personnage, en fait. La prédication intellectuelle, donc, qui, j'ai connu ça, quelqu'un qui a cité 8 auteurs différents, en fait, dans une prédication. Et on se rendait compte, en fait, que le message profond de sa prédication, c'était « regardez comme je suis intelligent ». Du côté de l'auditoire, les effets, c'est l'orgueil. Je fais ici partie d'un cercle d'élus. Ou le désespoir, jamais je pourrais faire partie de ce club. On constate aussi que des prédicateurs qui sont excellents en effet de manche du haut de la chair, quand il s'agit de mener des dialogues pastoraux, par exemple dans le cadre de préparation d'actes pastoraux, sont beaucoup plus timorés. On pourrait se demander si dans ce contexte-là, la parole n'est pas prisonnière de la chair. Et puis, il y a la concurrence renforcée dans une société médiatique. Pour qu'une communication fonctionne, habituellement, on considère qu'il faut plusieurs facteurs. Premièrement, il faut une certaine sincérité. C'est encore plus vrai quand vous êtes sous une caméra, parce qu'on voit dans votre visage si ce que vous dites, vous le pensez ou pas. La sincérité, la vérité, c'est-à-dire ce que vous dites doit correspondre à une réalité. Ce serait pas mal. Il y a la dimension de légitimité, c'est-à-dire que si je réagis, si j'ai un discours vis-à-vis de mes étudiants, par exemple, où je les traite comme s'ils étaient des gamins de 6 ans, je vais avoir un problème de communication. Il y a un quatrième facteur bien connu, c'est la clarté. Il faut que votre propos soit clair. Entre-temps, il y a un cinquième facteur qui est devenu décisif, c'est la question de la pertinence. C'est-à-dire, ce que vous dites peut être sincère, peut être juste, peut être légitime, peut être clair, et n'intéresser pas un rat. Et c'est là qu'il y a la difficulté, la véritable difficulté, en fait, de la communication de l'Évangile, c'est l'articulation à ce qui fait sens pour nos contemporains. Et c'est là une des difficultés toutes particulières. Alors voilà, ça, ce sont les difficultés. Est-ce qu'il y a des moyens d'aller plus loin? Et en bon protestant, à cet égard, ben, je vais lire la Bible. Après tout, c'est un bon livre. Alors, je lirai en particulier Matthieu 28, 16 et suivant, non pas 18 et suivant, mais 16 et suivant. Alors, je vous rappelle que ce texte est devenu le texte phare de la problématique missionnaire à partir de 1795 et donc la création de la mission coloniale. Avant, c'est un autre texte qui était essentiel pour la mission. C'était l'appel du Macédonien. Actes des Apôtres 16-9. C'est un tout autre style, n'est-ce pas? Et donc je lirai en fait Matthieu 28, pour une part, à la lumière de Actes 16, dont je parlerai aussi. Alors, le premier aspect qui me semble central en lisant l'évangile de Matthieu, les Luc et Luc de la Bible, vous pouvez les sortir là, hein, Matthieu 28, 16 et suivant, c'est la mention du doute. Certains d'entre eux doutaient. Frères et sœurs, ce ne sont pas des gens bardés de la certitude pathologique d'avoir raison qui sont envoyés en mission. Ce sont des douteurs. Les douteurs, justement, qui, du point de vue étymologique et dans de nombreuses langues, renvoient au fait d'être double. N'est-ce pas ? D'un côté, d'avoir envie d'y aller, puis d'un autre côté, chocotte. Ça, c'est le propre du doute. La seule fois dans l'évangile de Matthieu où le doute est mentionné, c'est quand Pierre s'enfonce dans le lac de Génézareth. Alors ça signifie justement que la démarche d'évangélisation ne se fait pas sur la base d'un savoir ou d'une capture, et qu'à l'inverse, en fait, l'athéisme, ou une forme d'athéisme en tout cas, fait partie de la foi. Je vous ai mis cette citation de Karl Barth. Je connais très bien la figure un peu triste de l'athée, je la connais non seulement à travers les livres, mais je la connais quand elle se lève en moi comme un revenant. Karl Barth, hein. Pas Tillich, pas Bultmann, Karl Barth. Donc une théologie quand même très affirmative. C'est important parce que les expériences missionnaires, alors Jean-François Dorn nous entretenait souvent à ce sujet, montraient que les missionnaires eux-mêmes, en fait, partaient souvent quand même de façon extrêmement timorée, et qui rentrait en disant « J'ai redécouvert l'Évangile autrement, à travers mon activité missionnaire. » Autrement dit, il y a une réceptivité de l'initiative missionnaire. On reçoit en se mettant en route. Cette dimension me paraît centrale, puisque c'est par ce biais-là que le doute n'est pas forcément surmonté, mais qu'on apprend à vivre avec. Premier aspect. Deuxième aspect, quand il est dit « tout pouvoir m'a été donné », c'est une traduction, n'est-ce pas Céline, un peu approximative, puisqu'en fait il s'agit de « exousia » et le terme correspondrait plutôt à « autorité ». Le pouvoir, ce serait kratos, ce serait dynamis, « exousia », ce serait plutôt l'autorité, autrement dit, le pouvoir d'une parole. Avoir une autorité, ça veut dire pouvoir changer une situation par sa parole. Quand le juge dit « la séance est levée », la séance est levée. Si c'est le prévenu qui le dit, la séance n'est pas levée du tout. C'est le juge qui dispose de l'autorité de changer une situation. Et donc ce pouvoir, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, c'est évidemment une allusion à notre Père. Mais avec la différence que désormais, il ne s'agit pas simplement d'une prière, mais d'une annonce. Et ce changement, en fait, correspond à un changement de pouvoir. Un changement de pouvoir, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de puissances qui dominaient sur Terre, qui ne dominent plus. Et c'est bel et bien le propre, en fait, de l'évangile du royaume, du règne plus précisément, qui consiste en fait à dire « Dieu est vainqueur ». Cela dit quelque chose au sujet de Dieu, « Dieu est vainqueur ». Ça dit quelque chose au sujet des puissances qui oppriment, elles ont été surmontées. Et ça dit quelque chose au sujet de l'être humain, ça dit « tu es libre ». L'évangile, pardon, pour citer un journal qui m'est cher, ce n'est pas la bonne nouvelle, ce n'est pas une dernière nouvelle. La bonne nouvelle, c'est une parole performative, une parole qui change une situation, une parole libératrice. Alors il est question justement de cette autorité de Jésus, exousia, à la fin du sermon sur la montagne, il leur parlait avec autorité, non pas comme leurs scribes, et c'est exactement le même mot donc qui est utilisé, mais maintenant avec une dimension universelle. Cette autorité de Jésus au mont des Béatitudes, près du lac de Génézareth, maintenant est valable pour le monde entier. C'est pourquoi aller vers toutes les nations. Vous pouvez traduire ça d'ailleurs par aller vers tous les milieux. Aller vers toutes les nations, c'est une dimension collective. Et les nations sont concernées dans leur particularité culturelle. C'est là que nous revenons à l'appel du Macédonien. Passe en Macédoine, viens à notre secours. Le verbe pour venir au secours a la même racine qu'un beuglement. C'est un besoin animalier de secours. Viens à notre secours. Ça a l'air plus policé dans les traductions habituelles. Sous la forme d'une apparition, en général, les seules apparitions dans les actes, c'est les anges ou le Christ. Mais là, c'est le destinataire de la mission. C'est lui qui oriente, et c'est ça l'important, la manière d'évangéliser et d'être missionnaire. Il n'y a pas que le mandat qui oriente, il y a aussi le destinataire. C'est lui qui est concerné, c'est selon lui que doit s'orienter notre façon d'être missionnaire. De même, il a ses caractéristiques ethniques, ce qui veut dire justement que l'évangélisation ne correspond jamais à une uniformité culturelle, pas non plus à l'intérieur de l'Europe. Il ne s'agit pas de transformer les gens dans la perspective du noyau ecclésial. De toute façon, il faut sortir d'une perspective de la distinction du noyau. Que seraient les autres? De la pulpe? De l'écorce? Il faut nous acheminer, me semble-t-il, vers des églises polycentriques, plutôt que dans une logique du noyau et de l'écorce. Il y a plusieurs centres dans une église et on peut en créer de nouveaux. Alors là, vous avez cette dimension donc ethnique, en quelque sorte collective, de la mission. Ça pourrait être le modèle de Clovis, n'est-ce pas, baptisé avec 3000 de ses guerriers qui n'avaient sûrement rien demandé. Mais vous avez, en fait, dans le texte de Matthieu 28, une faute de grammaire canonique. Aller vers toutes les nations, ta ethne, c'est un neutre pluriel. Baptiser les est au masculin pluriel. Vous pouvez vérifier, hein. C'est vrai. Nous avons une faute de grammaire canonique. L'autorité de l'écriture nous oblige à avaler une faute de grammaire, qui a son sens, parce qu'à côté de cette dimension collective, culturelle, vous avez une dimension profondément individuelle. Baptisez-les, ça s'adresse à des individus. En les sortant, pour une part, de leur collectivité. Le baptême marque toujours aussi une dimension de rupture. Cette individualité correspond à la dimension de l'expérience intérieure, le témoignage intérieur du Saint-Esprit, comme disait Calvin. Mais vous avez toujours aussi une dimension collective, parce que cette expérience intérieure est toujours articulée à une parole, à un vis-à-vis, à quelqu'un d'autre. Parce que l'individu qui demeure en soi, c'est une illusion postmoderne. Le « je » est toujours constitué par un « tu ». Et avant que l'enfant ne sache que sa main est sa main, il sait déjà que le visage de sa mère est le visage de sa mère. Avant qu'il y ait un je, il y a pour moi d'abord un tu. Donc vous avez cette articulation, la nécessité de cette articulation entre la dimension d'expérience intérieure, suscitée par le Saint-Esprit dans le meilleur des cas, et la parole extérieure telle qu'elle a été instituée par le Christ. Donc tout cela conduit à faire des disciples, c'est le seul verbe donc, qui est conjugué, les autres c'est des participes, et donc c'est le verbe principal. Faire des disciples se rapporte à la pratique rabbinique, et la pratique rabbinique consiste d'une part dans la transmission d'un message plutôt éthique, et évidemment dans une vie commune entre le disciple et le maître. L'enseignement se fait à travers une communauté, une vie commune. Une existence partagée. Il y a aussi une dimension rituelle, en l'occurrence donc par le baptême. Et la fin, c'est une promesse de présence. Il n'y a pas d'ascension au sens classique du terme, en tout cas, dans l'évangile de Matthieu. Il y a la promesse de présence. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Et cette promesse de présence fait antaclèse, donc ouvre comme une parenthèse par rapport au début de l'évangile de Matthieu, où il était question de l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et la fin, c'est « Voici, je suis avec vous ». Cette parenthèse autour de l'évangile de Matthieu signifie que tout le reste qui se situe à l'intérieur est à lire à cette lumière, y compris le sermon sur la montagne et des choses de ce genre. Voilà, et cette promesse de présence vaut en particulier dans les épreuves. Dans les épreuves, y compris les situations, justement, de doute. De doute dans son sens profond, pas le doute comme attitude scientifique, mais le doute comme ébranlement des certitudes qui font vivre. Voilà, alors du coup, nous avons plusieurs modèles. Mes filles me contaminent, je dis beaucoup trop du coup. Le modèle de la rencontre avec lequel vous avez travaillé au moins depuis 2013, si ce n'est avant, qui a un certain nombre de forces sur lesquelles je voudrais d'abord insister, avant de proposer deux autres modèles complémentaires et non pas concurrents. Le propre d'une rencontre, c'est qu'il y a une dimension d'audace. Quand vous allez à la rencontre de quelqu'un, vous ne savez jamais ce qui vous attend. Et il vaut mieux d'ailleurs ne pas trop savoir. Parce que ça signifie justement aussi s'exposer à autrui et s'exposer toujours à recevoir un râteau. Le modèle de la rencontre, dans le modèle de la rencontre, l'évangélisation ressemble à une déclaration d'amour. Vous vivez en permanence avec le risque du râteau, même après 35 ans de mariage. L'intérêt aussi de ce modèle de la rencontre, c'est que l'évangile ne propose pas un surcroît de pouvoir, d'avoir et de savoir, mais permet plutôt de vivre ensemble avec la condition humaine telle qu'elle se présente, y compris avec ses fragilités. L'avantage du modèle de la rencontre, c'est que c'est la rencontre entre deux personnes globales dans une interaction entre la parole et le geste. Mais si la rencontre est première, cela signifie aussi que l'évangile n'est pas purement subjectif. Il y a une dimension de vis-à-vis dans l'évangile. Ce modèle de la rencontre insiste beaucoup sur la personne du témoin et sur son authenticité. Et c'est là que les problèmes commencent. L'authenticité, pour une part, est toujours illusoire. Vous pouvez être parfaitement authentique et être contradictoire selon la personne que vous avez en face de vous. Vous êtes deux fois authentique, mais authentique autrement. Je pense aussi à cette étudiante qui faisait sa prédication, qui s'est donnée comme étant très authentique. Puis à la fin, au moment de faire le bilan de son exercice homilétique, sa meilleure copine a dit « mais je ne te connais pas du tout comme ça ». L'authenticité comme transparence par rapport à soi, elle est toujours plus ou moins mise en scène. Vous mettez en scène l'authenticité. Vous ne pouvez pas faire autrement aussi. À partir du moment où vous structurez votre propos. Et que serait un propos pas structuré. Alors, il y a un deuxième modèle que l'on peut proposer en complémentarité. Si j'ai bien vu les titres des ateliers, il est fortement représenté parmi nous. C'est le modèle de l'art. La prédication, pour moi, ce n'est pas de la science, ce n'est pas de l'éthique, c'est de l'art. La prédication a une dimension artistique. Ça ne veut pas dire que toute prédication est un poème. Hein. Sinon, je vous vois déjà un peu fatigué. Hein. Non, mais la dimension artistique signifie s'adresser au cœur. La dimension artistique signifie faire sa part à la dimension émotionnelle. Alors je sais que dans le protestantisme luthéro-réformé, on se méfie beaucoup des sentiments et de l'émotion. Je crois que nous avons tort. Je pense que l'émotion et les sentiments sont au cœur de notre foi. Il s'agit simplement de travailler ces éléments de façon réfléchie, bien sûr. Mais que serait le protestantisme réformé sans les cantiques? Sans les psaumes? Et que seraient les luthériens sans les cantiques? Il y a cette dimension justement artistique, dans une proximité historique. En fait, le phénomène religieux a toujours été particulièrement proche du phénomène de l'art. La dissociation entre les deux ne date que du XIXe siècle. Avant, l'essentiel de l'expérience artistique se vivait au sein du religieux. L'intérêt aussi de l'aspect artistique, c'est, comme dans le domaine du religieux, il y a une perte de maîtrise. Sacha Guitry disait « Le silence après Mozart, c'est encore du Mozart ». Il y a une perte, en fait, de maîtrise, de contrôle de ce qui se passe dans l'expérience artistique. De même, ce n'est pas quantifiable. C'est pour ça que l'art est en permanence sous-évalué ou surévalué sur le marché. De même, à travers l'art, comme à travers la rencontre, vous avez une invitation indéterminée et non contraignante. Je pense à cette amie qui me disait « Moi, je crois en Dieu quand je chante du Bach. » Sinon, elle était agnostique. Mais là, oui. Alors, un des exemples classiques, c'est que quand vous ne disposez pas de mandat institutionnel, quand vous n'êtes pas ordonné, j'en connais un comme ça, qui n'était pas ordonné du tout, n'avait absolument aucun mandat, comment est-ce que vous faites pour avoir quand même une parole qui porte du fruit et qui a une dimension performative? Eh bien, celui-là, il a commencé à raconter des paraboles. Ça vous rappelle quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe dans une narration? C'est que les gens, en fait, s'identifient à tel ou tel personnage, mais à titre probatoire. Zachée. Est-ce que je peux être Zachée? En quoi est-ce que Zachée est une position qui, pour moi, pourrait correspondre à une façon de me positionner devant le Seigneur? J'expérimente avec cette histoire. N'est-ce pas? C'est important parce que ça ne présente évidemment aucun sens de dire aux gens « tu dois croire ». C'est comme si je disais à quelqu'un « tu dois rire ». La moindre des choses, c'est qu'à ce moment-là, je vous raconte une blague. De même, si je veux inviter les gens à croire, il faut que je leur raconte une histoire qui leur permette, à titre probatoire, d'entrer dans une histoire. Cette dimension artistique, le troisième modèle, c'est non seulement raconter une histoire, mais la faire vivre. Ça, c'est ce que vous faites dans le travail de jeunesse. Et regardez un peu, la plupart d'entre vous, comment vous êtes entrés dans la foi chrétienne. Vous y êtes entrés à travers une histoire. Une histoire que vous avez vécue avec le Christ, en tout cas pour commencer avec l'Église. C'est dans ce contexte-là que se noue une relation, n'est-ce pas? La question a souvent été posée, qu'est-ce qui est constitutif finalement d'une relation? Est-ce que ce sont des qualités, mais vous pouvez perdre ces qualités? Est-ce que c'est l'interpellation d'un visage? Oui, mais c'est un peu abstrait. En général, c'est comme, pardon, avec le petit prince. Quand le petit prince dit aux 100 000 roses, vous êtes belle, mais vous êtes vide, on ne peut pas mourir pour vous, ma rose à moi est unique au monde, et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il raconte une histoire. C'est cette histoire qui constitue l'unicité de sa rose, qui est constitutive d'une relation. Et pour que vous puissiez vous engager dans des histoires de ce genre, donc à titre probatoire, ce qui est essentiel pour l'activité ecclésiale, ce sont des activités hybrides, qui sont à la fois ecclésiales et pas ecclésiales. La diaconie, c'est du social ou c'est de l'ecclésial? C'est hybride. La musique d'église, c'est de la musique ou c'est de l'église ? Hybride. Animation jeunesse, c'est purement religieux, c'est bien connu, n'est-ce pas ? Les groupes de jeunes ne font que ça. Les fêtes paroissiales, combien il y a de gens qui, pour le culte, ne sont pas tellement accessibles, mais les fêtes paroissiales, quand il s'agit de trimballer des tables de brasserie, ils sont là. Les oreillettes, oui, pardon. Dans le midi, oui, en particulier. Les actes pastoraux, c'est biographique, familial ou ecclésial ? Vous avez intérêt à accepter le caractère hybride des actes pastoraux. Si vous mettez les deux éléments en concurrence, vous êtes fichu. Et dans le cadre, justement, de ces activités hybrides, aux oreillettes, par exemple, ça m'a toujours frappé, vous arrivez à accéder à un langage, notamment au moment de la vaisselle. Alors ça me frappe quand je relis Acte 6, n'est-ce pas ? Les 12 qui veulent se spécialiser dans la prière et la parole, et Emmanuel Correa nous y a rendu sensible il y a des années de ça, à partir de Acte 6, il n'est plus question des 12. Les individus, oui, de ci, de là, surgissent encore, mais les 12, pfft. Et ceux qui commencent à parler, c'est ceux qui étaient chargés du service de table. Diaconia, thèse, trapezas, le service des tables. Ceux-là, ils ont trouvé un langage. La clé de cette histoire, c'était à Saint-Matthieu, en fait, où les paroissiens du noyau étaient plutôt bien portants du point de vue économique et social. Et tout autour, en fait, il y a les paroisses de cité. Et puis, un des membres du conseil presbytéral a dit « Il nous manque le langage ». Et une femme avait réagi en disant « À la prochaine retraite de confirmant, nous allons inviter les parents à manger et en faisant la vaisselle, le langage se trouvera. » Parce que, dois-je vous trahir un secret ? Tout le monde doit faire la vaisselle. La difficulté dans ce contexte, c'est quand vous devez faire des économies. La première tendance à ce moment-là, c'est de se concentrer sur des activités spécifiquement ecclésiales. Et si vous demandez aux gens de la quarantaine quel était leur meilleur souvenir, en fait, de l'Église dans leur jeunesse, c'était la balade à vélo. Et quand vous faites des économies, la première chose que vous supprimez, c'est la balade à vélo. Donc de ce côté-là, je pense qu'il faut cibler dans la façon en fait de réfléchir sur le concept de cœur de métier. Voilà, alors dans ce cadre, il y a un élément qu'il faut un peu corriger aussi, me semble-t-il, puisque cette façon de considérer l'activité ecclésiale hybride peut représenter comme un mouvement centrifuge. La diaconie dans les années 60, hein, par exemple, a souvent consisté à s'éloigner, en fait, des autres activités ecclésiales. Il y a certains qui observaient même que souvent les responsables de la diaconie sont des déçus de l'église paroissiale. Je me souviens, il y a des années de ça, de ce genre d'entretien. C'est pourquoi il faut compléter le mouvement centrifuge par un mouvement centripète. Autrement dit, de restructuration permanente des différentes activités hybrides. Autrement dit, c'est bien gentil de dire, pour moi, l'essentiel dans l'enseignement catéchétique, c'est l'éthique, la science des petites bêtes. Mais vous n'aurez pas d'éthique protestante si vous n'en partagez pas la spiritualité. N'est-ce pas ? Il faut rattacher la dimension du mode de vie à la dimension de l'expérience intérieure et de la conviction croyante. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ces cinq éléments me semblent centraux pour un christianisme vécu dans leur interaction. La conviction croyante, dire Dieu existe, l'expérience intérieure, qui est émotionnelle, sentimentale, au moins pour une part, le mode de vie, la dimension éthique, justement, la communauté, et, horribile dictu, désolé de vous dire ça, la ritualité. Vous n'avez pas de christianisme vécu sans ritualité. Et c'est l'interaction de ces différents éléments qui font le christianisme vécu. Les portes d'entrée peuvent être diverses. Tous les cinq éléments peuvent fonctionner comme portes d'entrée. Mais un christianisme s'épanouit dans la mesure où vous avez l'interaction vécue entre les différents éléments. Évidemment, cela conduit n'est-ce pas, à une critique de la notion de spécialisation des associations, puisque du coup, des associations purement culturelles, ça n'existe pas. Puisque l'ensemble de l'activité culturelle s'articule à des choses qui demeurent hybrides, n'est-ce pas, Jean-Daniel Roch ? Nous sommes bien d'accord là-dessus. Alors, quel est l'objectif dans ce cadre ? Et c'est là, justement, pour cette raison que j'ai introduit l'image de Blaise Pascal. À la fin du pari de Pascal, vous n'avez pas la logique « croyez parce que vous avez intérêt à croire ». Ça, c'est une lecture parfaitement superficielle. Ce que lui, il dit, ce à quoi il invite à travers le pari, c'est à éprouver la vérité de la foi. Alors, quand vous traduisez « éprouver » en allemand, vous vous rendez compte que éprouver a deux sens. D'une part, tester, mettre à l'épreuve, et ressentir. Puisque pour Pascal, il est hors de question, en fait, de pouvoir démontrer la foi dans une logique rationnelle. Il faut éprouver. N'est-ce pas ? Et c'est pour cette raison, en fait, que l'objectif dans le cadre de ces différentes activités serait d'inviter autrui à éprouver la plausibilité de l'attitude croyante. À travers les différentes activités hybrides, à travers les différents éléments constitutifs d'un christianisme vécu. Alors, qu'est-ce que cela signifie du point de vue ministère ? En principe, ce n'est pas mon job, mais il y a quand même un certain nombre d'éléments qui me semblent découler de ce que je viens de vous dire. Premièrement, évidemment, les ministères sont à considérer comme des services, ça c'est classique. Même le pape s'appelle lui-même Servus Servorum, n'est-ce pas ? Ce n'est pas toujours vrai. Le service, c'est d'abord une fonction. C'est une fonction dans le cadre, justement, de la communication de l'Évangile et de la dimension communautaire. Un ministère est reconnu publiquement. C'est très important, en particulier dans le cadre des actes pastoraux. Si vous êtes amené à procéder à la célébration funéraire d'un enfant, vous êtes dans une situation où les gens ont un besoin immédiat de vous faire confiance. N'est-ce pas ? Et à ce moment-là, la reconnaissance d'un ministère par une instance extérieure vous porte. Quand j'étais stagiaire, j'étais amené à procéder à l'enterrement de quelqu'un qui était de trois ans plus jeune que moi à cet âge-là, il avait 27 ans. Et puis, il y avait une espèce d'hystérie dans l'assemblée, et puis moi, je n'avais qu'une seule envie, c'était de pleurer avec tous les autres. Mais il fallait bien que quelqu'un les y conduise à ce fichu cimetière. Et c'était moi. Il y a une dimension institutionnelle qui rend possible une confiance. La reconnaissance des ministères, c'est l'institution qui dit publiquement « celui-là, celle-là, vous pouvez faire confiance. » Nous ne pouvons pas nous priver de cette dimension. Elle est incontournable. Nous pouvons être très, très associatifs, mais de ce point de vue-là, nous avons besoin de quelque chose qui ressemble à une institution. Surtout dans les domaines les plus sensibles de l'existence. Le droit, la santé, mais aussi justement l'Église prise de ce point de vue-là, du point de vue des actes pastoraux. Alors donc, reconnu publiquement, qui assure une continuité et une qualité du service. Ça ne veut pas dire qu'il en a le monopole. Personne ne dit que le pasteur doit avoir le monopole de la prédication. Par contre, il en assure la continuité et la qualité en collaboration avec d'autres, que par moments, il forme. Il a cette responsabilité. À côté donc de ces aspects-là, il y a la diversité nécessaire des formes ecclésiales qui correspond à la diversité croissante des cultures à l'intérieur de l'Europe. Il n'y a plus de culture française unifiée. Vous avez différents milieux qui se distinguent fortement les uns des autres et qui s'opposent les uns aux autres. Donc il faut cette diversité des formes ecclésiales. Et les instances de diversité peuvent être différentes. Vous pouvez avoir les différentes confessions. Les pentecôtistes au Brésil, par exemple, sont actifs dans des milieux que les protestants et les réformés et les luthériens n'atteignent qu'en rêve. Enfin, plus précisément, dans leur pire cauchemar. Vous avez différents tempéraments pastoraux. Il m'arrive de dire qu'il nous faudrait des pasteurs punk. Je ne suis pas candidat à cause de l'Iroquoise. Les tempéraments pastoraux, les différents ministères, à côté justement des pasteurs, qui sont toujours un peu des pasteurs docteurs, et si la théologie est bien comprise, c'est salutaire. Mais aussi, à côté de ces ministères-là, il en faut d'autres. Des musiciens d'église, par exemple. Et puis, il y a la diversité à travers le sacerdoce universel. Dans le protestantisme, il n'y avait pas de prêtres ouvriers. On partait du principe que les ouvriers étaient les prêtres. Donc, nous avons les moyens de mettre en place cette dimension de diversité, pas forcément de façon planificatrice, mais à travers des expérimentations qui s'avèrent fécondes ou pas. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Mais se donner d'une certaine manière la liberté d'expérimenter dans la façon d'approcher les différents milieux, les différentes populations. Pas pour ces populations, mais avec. Quand vous travaillez à la traduction de la Bible dans un langage au Ghana, par exemple, vous êtes extrêmement dépendant des personnes à qui vous vous adressez. Ça vaut aussi dans une perspective des différents milieux. Vous êtes très dépendant des gens à qui vous vous adressez pour trouver une action pertinente. Dans cette perspective, il n'y a pas d'opposition entre ministère et sacerdoce universel. Ça, c'est une légère tentation luthérienne. Vous avez un fondu enchaîné entre le sacerdoce universel et le ministère pastoral, par exemple. Tous les bénévolats ne correspondent pas directement au sacerdoce universel, parce qu'un bénévolat public, par exemple, Dieu merci, vous pouvez en être viré. Vous ne pouvez pas être viré de votre sacerdoce universel. Mais quand votre ministère bénévole n'est pas fécond, on peut vous dire « stop, ça s'arrête là ». Heureusement. Donc vous ne pouvez pas assimiler le bénévolat avec le sacerdoce universel. Alors l'objectif justement, c'est de mettre en place à travers cette multiplicité de ministères l'interaction des différents éléments que j'ai évoqués qui conduisent, l'interaction conduit à un christianisme vécu structuré. Il y a les expérimentations, il y a la force centrifuge, puis en même temps, pour que la foi chrétienne puisse s'épanouir, elle a besoin de structure et d'interaction des différents éléments du dispositif qui constitue la foi. Enfin, dans cette perspective, la théologie se présente comme herméneutique, c'est-à-dire toujours articulée à des discours qui lui sont, au départ du moins, extérieurs. La théologie arrive à elle-même quand elle est confrontée à une culture étrangère. C'était le cas pour l'hellénisme. C'était totalement une culture étrangère pour les premiers chrétiens. Ça a donné la théologie patristique. La confrontation aux Germains a donné la scolastique. Anselme de Canterbury, par exemple, c'est tout à fait clair, c'est vraiment un Germain, même s'il est originaire d'Italie, dans sa façon de faire de la théologie. La théologie est herméneutique, c'est-à-dire interprétative, dans une tension vers quelque chose qui lui est étranger. C'est pour ça que Martin Keller, en 1906, déjà disait « la mission est la mère de la théologie ». Ça permet effectivement de sortir d'une théologie qui serait centrée sur elle-même et ses compétences, mais au profit d'une théologie justement qui est toujours déjà tendue vers une forme de réinterprétation des textes, des thèmes de la foi chrétienne pour un individu, pour une communauté, pour une société bien précise. Voilà quelques éléments de programme. Alors comme disait un formateur qui avait eu le malheur de m'engager, ce que Fritz vous présente, c'est du sirop. C'est assez dense. Certains préféreront la métaphore du pastis. Au fur et à mesure de nos échanges pendant ces quelques jours, nous aurons l'occasion de rajouter de l'eau. Et j'ose espérer que ce sera beaucoup plus consommable. Merci pour votre attention.